Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 21 mai 2024. On va commencer tout de suite en commentant un petit peu l'actualité internationale, puisque vous le savez, ça chauffe en Nouvelle-Calédonie notamment. Et ça nous permet justement d'aborder plusieurs aspects avec tout d'abord ce petit retour sur ce qui s'est passé à Montpellier ce week-end. Des rassemblements étaient prévus, justement une manifestation en soutien à la communauté, organisée par la communauté kanak montpelliéraine qui ont rejoint les soutiens au peuple palestinien justement sur la comédie ce samedi 18 mai sous les mêmes mots d'ordre qui étaient lutter contre l'impérialisme et la colonisation. Cela alors que les bombardements continuent sur Gaza et que les Kanaks dénoncent des meurtres par des milices loyalistes, le tout sur fond de réforme du corps électoral. On va prendre un petit peu le temps d'aller justement voir ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais avant ça, donc un petit retour dans les colonnes du Point avec un G, le Point sur Montpellier, qui était donc à ce rassemblement, cette réunion de rassemblement plutôt, qui ont commencé en face de la gare Saint-Roch, donc au square du Père-Planchon, avec la communauté kanak qui s'est réunie pour justement défendre le peuple et la cause indépendantiste, et surtout pour porter le deuil des 5 victimes des milices loyalistes à l'État français qu'il déplore. C'était Caloé, un Kanak vivant à Montpellier, qui l'expliquait donc aux journalistes du Point présent ce jour-là. Trésor aussi, c'est le nom d'un autre Kanak qui a témoigné lui aussi dans les colonnes du journal et se dit choqué par la situation. Il explique que l'État français a coupé TikTok, ça c'est arrivé hier, ce week-end. C'est le premier État européen à le faire. Coupure donc de réseaux sociaux sans décision de justice qui est permis donc par un état d'urgence. Tout ça, dit-il, sert uniquement les intérêts loyalistes néocolonialistes. Ce cortège a donc rejoint les soutiens de la Palestine qui étaient présents sur la comédie. Excusez-moi, les pollens de platane sont assez terribles ici à Saint-Hippolyte. Je reviens donc sur ce manifestant qui était sur la comédie, et ça a permis de rejoindre les soutiens palestiniens, notamment José Luis Moragues, qui est co-animateur de la campagne BDS France Montpellier, pour qui cela montre l'actualité du combat anticolonial. Ce co-animateur donc de BDS, donc boycott, désengagement, sanctions, milite depuis des années de manière pacifique pour imposer justement ce boycott et des sanctions sur l'État d'Israël face à sa politique colonialiste. Et il explique qu'ils ont rencontré la diaspora kanak lors du 1er mai et que du coup, quand ils tenaient leur stand habituel sur la comédie, ils sont venus les voir. Ils se sont donc déclarés solidaires les uns des autres. A noter d'ailleurs que José Luis Moragues est convoqué au tribunal le 6 juin prochain après une plainte en diffamation du sénateur de l'Hérault Hussein Bourgi, qui avait été représenté sur une des pancartes de BDS comme un complice d'Israël. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, elle aussi ciblée par la communication de BDS, des affichettes présentes sur leur stand, elle a également porté plainte en diffamation. Il sera pour cela convoqué au commissariat central le 23 mai à 13h30. Des rassemblements de soutien pour ce militant sont organisés à BDS. Ils évoquent pour eux la cause palestinienne attaquée. Si on revient au Kanak, ils se sont retrouvés aussi ce dimanche 19 mai au foyer calédonien à Montpellier près du CHU pour construire la solidarité. C'est Lydia, la présidente de la case calédonienne de Montpellier, qui explique justement les actions de son association qui regroupe la diaspora kanak présente sur Montpellier. Beaucoup de gens, surtout d'étudiants, ont peur pour leur famille sur place. La semaine a été stressante pour eux. On prévoit un temps d'écoute. On est en train de mettre en place un collectif pour créer un contre-pouvoir médiatique sur les réseaux sociaux, récolter des dons alimentaires, notamment pour les bébés et les personnes sous dialyse, car ce sont les besoins qui sont remontés de là-bas du terrain. C'est une action du cœur, dit-elle. On se sent impuissant, mais pourtant, il faut faire quelque chose. Voilà, l'association s'appelle la Case Calédonienne de Montpellier. Vous pourrez retrouver leurs actions sur Internet si vous le souhaitez. Du côté des soutiens à la Palestine, une journée était organisée ce dimanche 19 mai au Bouzard à Montpellier pour récolter des fonds et les envoyer sur place. Et un rassemblement est prévu ce soir à Ganges, donc ce mardi à 18h, c'est devant la mairie. Un appel à soutien, à solidarité avec la Palestine, signé notamment du collectif Seven Palestine Solidarité. Mais sur le tract, on voit aussi de très nombreuses organisations syndicales ou politiques qui se sont jointes à cet appel. Et le micro de Radio Escapade devrait normalement s'y balader. Puisqu'on parlait d'Israël et Palestine, vous l'avez peut-être entendu parler cette info, des demandes de mandat d'arrêt par la CPI. Il faut remonter déjà en janvier dernier, le 26 janvier, c'était la Cour internationale de justice qui rendait une décision historique en demandant à Israël d'empêcher d'éventuels actes de génocide et de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Cette décision marquait dans le marbre les intentions génocidaires du gouvernement Netanyahou contre le peuple palestinien, mais c'est une décision qui n'avait eu aucun impact réel sur le terrain. Cette nouvelle info, donc, ce lundi 20 mai, à la Cour pénale internationale, c'est le procureur Karim Khan, qui siège à La Haye, qui a demandé au juge d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, ainsi que son ministre de la Défense, Yoann Gallant. Cette demande vient confirmer ce que dénonce le mouvement de solidarité internationale avec la cause palestinienne depuis des décennies, même si dans les faits, ces mandats d'arrêt demandés donc par la CPI pour crimes contre l'humanité et d'extermination contre donc Netanyahou et Gallant. Cela signifie que les nations, y compris la France, qui poursuivent notamment la livraison d'armes à Israël, pourraient aussi encourir les peines de complicité de ces crimes. Ça sera au juge de la CPI de trancher. Et malgré tout, si ces juges décident donc d'émettre le mandat d'arrêt, cela signifie en théorie que n'importe lequel des 124 États membres de ce tribunal serait obligé de l'arrêter s'il se rendait sur son territoire. Mais malheureusement, la CPI ne dispose d'aucune force de police pour faire appliquer ses mandats d'arrêt. Elle s'appuie uniquement sur la volonté de ses États membres s'ils souhaitent jouer le jeu. Peu de chance que cela arrive, mais quand même au niveau symbolique, cela apporte un certain camouflet, en tout cas, au soutien de l'État d'Israël et de la politique de Netanyahou. À noter d'ailleurs que ce sont aussi les dirigeants du Hamas palestinien qui sont visés par ces demandes de mandat d'arrêt de la CPI. Ce qui fait qu'en tout cas, pour une fois, ils sont d'accord. À la fois le Hamas palestinien qui dit, pour sa part, condamner fermement la décision du procureur de la Cour et dénoncer ses tentatives d'assimiler la victime au bourreau, et même son cloche du côté d'Israël où l'on trouve intolérable d'être assimilé au Hamas. On peut lire dans Le Monde que la France a soutenu la démarche de la Cour pénale internationale. Le Quai d'Orsay rappelle avoir condamné les attaques du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, mais dit aussi avoir alerté depuis de nombreux mois sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza depuis la réplique militaire israélienne. Une déclaration qui laissera certains un petit peu amers, surtout quand on voit le sort qui a été réservé aux demandes de manifestations de soutien à la Palestine. Et on continue d'explorer aussi, je vous le disais, les ressorts de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec un article de Reporter qui s'intéresse notamment aux ressources en nickel présentes sur le territoire. Le gouvernement français espère en effet imposer à Nouméa un accord pour bénéficier de ses ressources en nickel et pouvoir fabriquer davantage de voitures électriques. Cette attitude est vécue par les indépendantistes comme une recolonisation de leur territoire et la situation n'est pas étrangère à ce que vit en ce moment le territoire d'outre-mer. C'est donc un enjeu crucial, qui pourra profiter des ressources minières de cet archipel du Pacifique. Le territoire abrite à lui seul 20 à 30% des ressources mondiales en nickel, un élément indispensable pour fabriquer donc des batteries de voitures électriques. Autrement dit, les sous-sols néo-calédoniens attirent les convoitises et notamment celles de la France. En novembre de l'année dernière, en visite sur l'archipel, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait présenté pour la première fois un pacte nickel. Le but de ce pacte, faire sortir de la faillite les trois usines métallurgiques du territoire, qui sont donc spécialisées dans le traitement de ce minerai. Car en effet, si la Nouvelle-Calédonie est riche en différents minerais, d'ailleurs, le secteur, lui, est en crise. À cause des coûts exorbitants de l'énergie, de la chute des cours du métal, la baisse des ventes, ainsi que la concurrence avec les mines d'Indonésie, la filière nickel est donc en grande difficulté sur place, alors qu'elle est la principale source de revenus pour le territoire. Et elle emploie par ailleurs 20 à 25% de ses habitants. Avec ce fameux pacte nickel, donc présenté au mois de novembre, Bruno Le Maire proposait de venir en aide aux usines en subventionnant les prix de l'énergie à hauteur de 200 millions d'euros et de développer la capacité de production électrique sur le territoire. En échange des collectivités locales, elles devaient s'engager à faciliter l'accès aux ressources et les usines devaient être exploitées par des industriels pour être rentables. Alors, un des premiers problèmes de cette proposition, c'est que c'était tout d'abord une tentative d'ingérence qui passe mal sur place, puisqu'en effet, l'accord de Nouméa, qui date de 1998, avait déjà été signé, et dans celui-ci, la compétence justement de la gestion du nickel avait été récupérée par la Nouvelle-Calédonie, hein, qui a un gouvernement sur place, pour que donc cette gestion du nickel puisse profiter pleinement au développement du pays. 26 ans après cet accord de Nouméa, le projet de Bruno Le Maire est donc perçu par les indépendantistes comme un pacte colonial de reprise en main de la maîtrise des matières premières de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les mots de Ronald Frère, un proche du président de l'Union calédonienne, plutôt indépendantiste, qui est cité dans les colonnes du Monde. Le pacte affiche clairement la couleur. La France a besoin du nickel calédonien pour produire des batteries de voitures électriques vendues en métropole. Ça, ce sont les mots et l'analyse de Christine Demers, qui est anthropologue au CNRS. On sort complètement du modèle qui consiste à ce que la rente minière profite à la Nouvelle-Calédonie pour son propre développement. Selon cette chercheuse, le pacte est donc bien une forme de recolonisation du territoire. Autre difficulté comprise dans ce pacte, le ministre de l'économie y demande explicitement donc à la Nouvelle-Calédonie d'autoriser plus d'exportation des minerais bruts, donc du nickel brut, à l'export. Or, les habitants de l'archipel estiment, eux, que la transformation de ce minerai doit se faire sur place pour conserver la valeur ajoutée. Quand bien même l'extraction des mines est aussi d'ailleurs une activité très polluante. Cerise sur le gâteau, même les loyalistes d'ailleurs, donc ceux qui ne sont pas pour l'indépendance, rejettent la contribution des 66 millions d'euros demandés par l'État à la Nouvelle-Calédonie. Ils la jugent trop élevée au vu de la dette du territoire. Voilà, donc en venant dans le Pacifique, Bruno Le Maire s'imaginait que l'accord serait signé dans les jours suivants, au mois de novembre, mais rien ne s'est passé comme prévu. Les parlementaires du Congrès calédonien ont refusé à plusieurs reprises d'habiliter le président du gouvernement local, Louis Mapou, à signer cet accord avec l'État. Les discussions sont donc au point mort depuis le mois d'avril. Et c'est d'ailleurs ce souci de méthode que dénoncent aussi les indépendantistes depuis le 14 mai. Là, on revient aux événements plus récents, la date à laquelle les affrontements ont commencé en Nouvelle-Calédonie. Hein. À ce jour, les violences ont entraîné la mort de 5 personnes, 3 civils et 2 gendarmes. L'état d'urgence a été déclaré par Emmanuel Macron et l'armée déployée sur tout le territoire. Vous le savez sûrement, mais une partie des habitants s'oppose là à une réforme promue par le gouvernement français, une réforme qui vise à élargir le corps électoral pour les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, seules les personnes qui ont été inscrites avant 1998 et leurs descendants peuvent voter. Eh bien, cette réforme propose donc d'ouvrir le droit aux personnes qui résident sur l'île depuis au moins 10 ans, et ça fait 25 000 nouvelles personnes de plus. C'est cet élargissement qui est compris dans le terme dégel que vous entendez sûrement. Le peuple autochtone indépendantiste kanak est donc opposé à cette réforme, car il estime qu'elle va réduire son poids électoral et le marginaliser davantage, alors que ses membres sont les seuls à avoir été colonisés et qu'ils ne représentent plus que 40% de la population du territoire. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, depuis le processus de décolonisation qui a été lancé en 1988, la tradition calédonienne est de trouver un compromis entre chaque position, qui va des indépendantistes aux loyalistes, donc ceux qui veulent rester sous le giron de la France, en passant d'ailleurs par aussi l'État qui est compris dans ce compromis. Mais la tradition a volé en éclats en 2021, vous vous en rappelez sûrement, on était en plein Covid, et le gouvernement a refusé de repousser la date du troisième référendum sur l'autodétermination du territoire, alors qu'il était de repousser la date était demandé justement par le peuple kanak, puisqu'il lui demandait du temps pour enterrer ses morts dus à la pandémie de Covid-19 qui avait fait des ravages là-bas aussi. Et depuis, considérant que la victoire du non à ce référendum, quand bien même la majorité de la population n'avait pas pu aller voter à cause de justement cette période de deuil, et l'État considérant que ce non est un feu vert à la réforme, et l'État a donc poursuivi sur sa lancée. La réforme électorale a été adoptée le 2 avril au Sénat, puis par les députés dans la nuit du 15 au 16 mai. Il devrait être voté une dernière fois par les parlementaires réunis en congrès au mois de juin, sauf si un accord sur un texte global intervient avant entre les indépendantistes et les loyalistes. Loin de la tradition du consensus et du vivre ensemble de Michel Rocard en 1988, c'était ses mots, il était alors Premier ministre, Emmanuel Macron et son gouvernement ne s'embarrassent plus du temps nécessaire pour faire émerger des compromis entre toutes les parties de l'île, que ce soit donc pour la question du nickel ou celle du corps électoral, l'Étien maintient sa démarche jusqu'au boutiste. Cela fait 3 ans que tout le monde alerte le gouvernement sur le problème de sa méthode qui consiste à passer en force au lieu de privilégier le consensus, commentait au micro de France Culture l'anthropologue Benoît Trépied. Et il souligne que c'est malheureusement ce type de passage en force sans consensus qui avait déclenché la guerre civile dans les années 80. Voilà une analyse un peu poussée, piochée dans les colonnes du journal Reporter. On va parler maintenant d'une cabale médiatique qui vise la journaliste Nassira El-Mouadem. Elle est victime d'une campagne de cyberharcèlement après des propos d'un député RN notamment. Cette journaliste, qui travaille pour Arrêt sur Image, a reçu des centaines de messages racistes et haineux à la suite d'un tweet qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux, les médias et aussi du côté de l'extrême droite. Une campagne donc amplifiée par des tweets et notamment une émission de Cyril Hanouna. A noter aussi que le collectif d'extrême droite Némésis a lancé une cagnotte pour lui payer un billet d'avion, donc une cagnotte raciste contre cette journaliste. Tout a commencé par un article de RMC Sport. Donc on parlait bien de sport. Cet article expliquait qu'un courrier du président de la Ligue de football amateur, qui avait été envoyé au président des districts et des ligues, rappelait que les casques ou les collants ne pouvaient pas être portés en vertu des règles de l'organisation, seulement après une autorisation délivrée par la commission médicale de la Fédération française de football. Il y a donc question en filigrane de la question notamment des joueuses qui veulent venir en couvrant leurs cheveux sur les stades de foot. Une décision qui apparaît alors comme un acharnement aux yeux de cette journaliste Nassira El-Mouadem, et elle exprime donc son sentiment d'écœurement dans son tweet sur X le 30 avril. Le tweet disait ceci: « Pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte ». Un cri du cœur, donc, comme il en existe des milliers sur le réseau social X, où on ne fait pas dans la finesse en général. Mais ce tweet n'est pas passé inaperçu, notamment aux yeux de CNews et du Rassemblement National, qui vont monter en épingle l'affaire, chacun se faisant l'allié objectif de l'autre pour désinguer donc cette journaliste d'origine marocaine. Par exemple, le député Julien Odoul, hein, Rassemblement National, invité par Jean-Marc Morandini le 1er mai dans le Morandini Live, il demande à la patronne de Radio France de suspendre Nassira El-Mouadem, à savoir qu'elle a bossé pour Radio France en 2021 et 2022, mais qu'elle n'y travaille plus. Hein. Ça, soit il ne le sait pas, soit il a fait exprès de le passer sous silence. Si elle n'est pas contente, elle se casse, hein, a ajouté l'élu RN. Les attaques ont repris plus tard dans l'émission L'heure des pros, animée par Pascal Pro sur CNews toujours, et le lendemain sur le plateau de Cyril Hanouna. D'ailleurs, la journaliste y était invitée, mais elle a refusé d'y aller en accusant cette émission de faire partie du problème, en participant activement à la banalisation des discours de l'extrême droite, raciste, islamophobe et attentatoire aux libertés. Tous les chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission se sont déchaînés sur elle. Cyril Hanouna lui a répondu sur le réseau X, déchaînant ses abonnés et abonnés ES. Le même jour, d'ailleurs, je vous le disais, une cagnotte a été lancée par la directrice du collectif d'extrême droite Némésis, qui intervient également sur CNews. Une cagnotte pour offrir un billet d'avion à Nassira El-Mouadem pour le pays de son choix, afin qu'elle puisse quitter la France, ce pays de racistes. Une cagnotte qui a fait l'objet d'un signalement au procureur par un élu municipal de Renaison d'ailleurs. Celui-ci a retenu qu'il y avait là un potentiel délit d'incitation à la haine. À noter que de l'autre part, une plainte est également en cours contre la journaliste Nassira El-Mouadem cette fois-ci. C'est l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne. Hein, tout ça, je ne savais pas que ça existait. C'est une association d'extrême droite. Une plainte donc, contre la journaliste, visiblement pour ses propos. En tout cas, toutes ces attaques ont déclenché un déferlement de haine qui a noyé tous les réseaux sociaux de la journaliste sous un déluge de messages racistes, parfois franchement sexistes, avec des menaces explicites sur son intégrité physique, hein, menaces de viol ou de meurtre. « J'ai déjà reçu des raids numériques de l'extrême droite, dit-elle, mais pas dans cette proportion. » C'était dans les colonnes de Libération qu'elle témoignait. Des lettres ont été envoyées au domicile de sa mère, par exemple. En face, de nombreux journalistes, sociétés de journalistes et personnalités ont apporté leur soutien à Nassira El Moadem. On peut citer la Société des journalistes et du personnel de Libération, celle de Mediapart, de Télérama, l'Association des journalistes antiracistes et racisés, l'association Prenons la Une, le SNJ, Syndicat National des Journalistes, ou encore le président de SOS Racisme, la sénatrice Laurence Rossignol, ainsi que de multiples universitaires. En revanche, et on va rejoindre aussi l'actualité des radios du moment, la réponse de France Inter, qui était directement visée dans les attaques du Rassemblement National, est pleine d'ambiguïté. « Nous avons bien reçu vos messages et comprenons votre réaction », indiquait jeudi matin la direction de la radio à ses auditeurs et auditrices, en assurant que la journaliste avait ponctuellement collaboré à deux séries d'été pour France Inter et en affirmant que ses propos ne peuvent en aucun cas l'engager, enfin engager la direction de Radio France. En somme, France Inter n'apporte aucun soutien à la journaliste et semblait même minimiser sa contribution. Cette réaction a outré de nombreuses personnes, à commencer par la principale intéressée, qui a commenté « Votre texte est une honte absolue ». D'autres réactions ont conduit ensuite France Inter à modifier sa réponse, qui désormais se termine ainsi. « Nous tenons à condamner les attaques violentes qu'elle subit ces dernières heures sur les réseaux sociaux. » Voilà, on verra un petit peu aussi, on peut en filigrane avec cette affaire, voir la différence de traitement quand on est victime de cyberharcèlement, selon le bord politique auquel on est assimilé. Hein. On se rappelle par exemple de l'affaire Mila, qui avait été prise en charge pour sa sécurité, puisqu'elle avait été elle aussi ciblée par une campagne de cyberharcèlement suite à ses propos islamophobes. Les auteurs de certains tweets avaient d'ailleurs été condamnés à des peines de prison avec sursis, ainsi qu'à des amendes de réparation. À voir si ça sera le cas, si justement la plainte de cette journaliste est bien prise en compte.
Ah, les ras-bol, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
On part en Iran, où la propagande semble aussi battre bien la campagne suite à la mort de Ebrahim Raisi. Des rassemblements sont organisés pour ses funérailles toute la semaine. Hein. Les médias officiels d'Iran montrent des milliers de personnes en deuil en train de rendre hommage au chef de l'État qui a été tué dans le crash de son hélicoptère c'était ce week-end. C'est le début donc de 5 jours de funérailles en Iran. Avant de traverser tout le pays, le cortège funéraire s'élance aujourd'hui de Tabriz, hein, à côté du lieu du crash de l'hélicoptère qui a eu lieu ce dimanche soir. Le cortège passera par Qom et Téhéran mercredi, avant l'enterrement dans sa ville natale de Mashhad, c'est à l'est du pays, ça sera jeudi. Des dizaines de milliers de personnes sont déjà réunies sur plusieurs places des grandes agglomérations du pays pour dire adieu au président iranien et attendre le passage du cortège. Cette procession a aussi des allures d'opération de propagande. Hein. Sur les chaînes de télé iraniennes, des images de foule impressionnantes tournent en boucle, des femmes et des hommes réunis pour rendre hommage à Ebrahim Raisi, tous en larmes et en louanges face à la vie et à l'œuvre de ce grand homme. Le cortège funéraire va parcourir près de 2000 km à travers le pays, 3 jours donc pendant lesquels le régime compte bien montrer que le peuple iranien est uni. Pour certains, c'est tout simplement une vaste manipulation médiatique. Un opposant qui a préféré garder l'anonymat l'a en tout cas exprimé ainsi dans les colonnes de France Info. Ce n'est que de la propagande. Ils prennent des gens souvent très pauvres et ils les payent pour grossir les rangs. Dans mon entourage, je ne connais pratiquement personne qui va y aller. Il n'y a que les extrémistes qui sont vraiment en deuil. Dans les rues, dit-il, les gens sont joyeux. Une foule immense est attendue donc ce jeudi pour l'enterrement d'Ebrahim Raisi, une démonstration de force plutôt bienvenue pour le régime. La mort de ce chef d'État à 63 ans ouvre en effet une période d'incertitude politique en Iran, au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, qui était un allié de la République islamique. Cette mort brutale va entraîner une élection présidentielle qui devrait être organisée dans les 50 jours. Elle aura donc lieu le 28 juin, selon la télévision d'État. Et en attendant, c'est le premier vice-président Mohammad Mokber, un homme de l'ombre âgé de 68 ans, qui assumera les fonctions de président par intérim. « On termine ces nouvelles du monde avec trois brèves qui s'intéressent plutôt à la question climatique et elles sont donc issues aussi des colonnes du journal Reporter. Tout d'abord, on y lit un petit peu plus sur les inondations monstres qui ont ravagé le Brésil. Un premier bilan de 150 morts a été tiré. Ces inondations dévastatrices ont eu lieu dans l'état notamment du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil. Et donc, 150 morts et plus d'une centaine de disparus, c'est le nouveau bilan de ces inondations. 540 000 personnes ont dû fuir leur logement à cause de cette montée des eaux, provoquée par près de 3 semaines de pluie torrentielle. La capitale de l'État, c'est Porto Alegre, avec ses 1,4 million d'habitants. Elle est toujours en partie sous l'eau, submergée par la crue du Rio Guaíba, ce fleuve qui a vu son niveau augmenter de plus de 5 mètres, en battant le précédent record qui datait de 1941. 15 000 personnes ont dû abandonner leur domicile dans la ville de Porto Alegre. 13 000 d'entre elles étaient rassemblées dans les 59 refuges prévus dans la ville. Samedi, des quartiers entiers étaient encore privés d'eau et d'électricité. Et dans le centre historique, le marché municipal qui a été envahi par 5 mètres d'eau n'était accessible qu'en barque. Le niveau d'eau commence doucement à baisser dans la ville de Porto Alegre, même s'il est difficile d'évaluer le temps nécessaire pour que l'eau se retire totalement. Ça fait un petit répit pour les habitants du Rio Grande do Sul, du moins jusqu'à la prochaine catastrophe. Car en effet, la région est frappée par des pluies de plus en plus intenses régulièrement, cela causé par le changement climatique et aggravé par le phénomène El Niño. Les Gauchos, le surnom des habitants de cet état qui est à la frontière de l'Uruguay et de l'Argentine, tout au sud du Brésil, ont ainsi subi 3 inondations sur les derniers 8 mois.
Oh, c'est quand même bien fait.
Et oui, c'est bien fait, puisqu'il y a plus de neige, eh bien on va trouver d'autres solutions pour aller skier dans les montagnes. Pour skier l'été, par exemple, une piste en plastique est prévue dans une zone protégée des Pyrénées. Le changement climatique fait fondre la neige et menace le modèle économique des stations de ski. Pas de problème, construisons donc à la place des pistes en plastique pour pouvoir aller skier l'été. C'est en tout cas le projet de la station d'Artoust. On est dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées Atlantique, pardon. Ce projet vient de recevoir le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine qui a voté la semaine dernière, le 13 mai, une subvention de 76 000 euros pour la construction d'une piste sans neige. C'est un peu plus de 20% du coût total du projet. Ce projet vise donc à construire une piste pour skieurs débutants, une piste de 200 mètres de long pour 15 mètres de large, accessible en télécabine et recouverte d'un revêtement en matériaux plastiques recyclés et recyclables. Pour ses promoteurs, qui ont conçu l'idée en 2021, cette piste serait une alternative vertueuse à la neige artificielle et éviterait d'avoir à utiliser de précieuses ressources en eau et en électricité que consomment les canons à neige. Ouais, c'est une manière de présenter les choses. Mais les élus écologistes de la région, qui s'opposent bien évidemment au projet, dénoncent l'artificialisation de la montagne et l'aberration d'un projet qui transforme la montagne en parc d'attractions. En plus, cette zone est classée Natura 2000, et les écologistes réclament une étude d'impact environnemental sur les conséquences pour le vivant d'un tel projet. On imagine que la prairie sur laquelle sera mise cette bâche en plastique risque d'avoir un petit peu de mal à survivre. Stéphane Trifiletti, qui est le coprésident du groupe écologiste de la région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, dit craindre une fuite en avant sur ces matériaux plastiques qui dénaturent la montagne, qui impactent le climat, qui impactent la biodiversité. Ils ne sont absolument pas une réponse au tourisme que nous souhaitons. Et on termine avec cette information qui vient de tomber aussi. Le groupe Total Energy pourrait peut-être se retrouver sur le banc des accusés, une fois de plus j'ai envie de dire. Mais là, ce qui change, c'est que ça serait un jugement au pénal. Et donc ça, c'est une première. Et en plus, ça se ferait en compagnie de ses actionnaires. C'est ce matin que 8 victimes du changement climatique et 3 organisations non gouvernementales, à savoir Bloom, Alliance Santé Planétaire et l'association mexicaine Nuestro Futuro, donc ces 3 organisations, ont porté plainte au tribunal judiciaire de Paris. Et à noter aussi que parmi les 8 victimes du changement climatique, si une est de France, elle vient de Saint-Martin de Vésubie, d'autres sont justement de représentants de plein de régions de la planète et ont toutes été victimes de catastrophes climatiques dans les dernières années. Ces personnes, donc ces organisations non gouvernementales, accusent les dirigeants et actionnaires de Total Energy, hein, la majeure pétrolière française, d'avoir commis plusieurs infractions pénales et environnementales, à savoir mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire, abstention de combattre un sinistre et atteinte à la biodiversité. Et toutes ces infractions sont passibles d'au moins un an de prison et de dizaines de milliers d'euros d'amende. Depuis sa création en 1924, Total a émis pas moins de 15 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui en fait un des principaux forgerons du changement climatique. Cette majeure du pétrole se classe parmi les 20 principales émettrices de gaz à effet de serre de toute l'histoire de l'humanité. En 100 ans, les émissions des combustibles fossiles qui sont produits par Total ont autant bouleversé le climat que celles des 120 pays les moins polluants de la planète. Les dirigeants de Total Energy, d'ailleurs, sont au courant depuis plus de 50 ans des conséquences catastrophiques de leurs activités, mais n'ont pas pour autant modifié beaucoup la politique de l'entreprise. Avec cette procédure, en tout cas donc au pénal, les plaignantes et plaignants, je vous le disais, tous victimes de catastrophes naturelles imputables au changement climatique, espèrent mettre enfin les têtes pensantes de Total Energy face à leurs responsabilités pénales. C'est Adrien Gou, qui est chargé de la campagne énergie fossile au sein de l'association Bloom, qui l'explique. Et la date de ce dépôt de plainte, donc aujourd'hui, n'a pas été choisie au hasard, puisque l'Assemblée Générale de Total aura lieu dans 3 jours, le 24 mai. C'est une manière de leur dire droit dans les yeux, attention à ce que vous votez, votre responsabilité pénale est engagée, explique donc Adrien Gou. Les peines encourues ont de quoi inciter à la prudence, même si elles sont bien gentilles. Cela dit, un homicide involontaire, ça peut valoir 3 à 5 ans d'emprisonnement et une amende comprise entre 45 et 75 000 euros. L'atteinte à la biodiversité, elle, 3 ans de prison et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Bon, il reviendra encore au procureur de la République de voir si cette plainte sera classée ou bien si elle mérite d'offrir une information judiciaire. C'est là-dessus qu'on se quitte. Les nouvelles du monde bien fournies de la journée se terminent là-dessus. On se donne rendez-vous jeudi pour d'autres infos. D'ici là, portez-vous bien. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Vous allez avoir cet après-midi un escapadez-vous, tiens, à 15h30, qui s'intéresse à la programmation des essentiels qui auront lieu à Ganges en fin de semaine prochaine. À 17h, la tête dans l'étagère, où on y parlera des Illuminati, de la réalité et de tous les complots qui les entourent. Et ce soir, c'est l'apéro platine. Avec des surprises, tiens, pour vous à l'antenne, je vous en dis pas plus, vous avez qu'à vous brancher à 17h. Allez, bye bye, portez-vous bien, bon après-midi ou bonne soirée sur les ondes de Radio Escapade, si vous nous écoutez en rediff.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.